Chapitre 30, piété pratique. Chers frères et sœurs d'Auckland, je me sens poussé à vous écrire. Continuellement dans mes rêves, je suis en conversation avec vous. Quoi qu'il vous arrive, ne perdez pas courage et ne permettez pas que votre religion devienne un formalisme froid. Jésus est prêt à nous bénir abondamment, mais il faut que nous ayons acquis une expérience dans la foi, dans la prière fervente et dans la joie en l'amour de Dieu. En est-il parmi nous qui, seront trouvés trop légers? Veillons sur nous-mêmes, soyons à l'affût des moindres mouvements impurs de notre nature de peur que nous ne soyons pas à la hauteur des grandes responsabilités que Dieu nous a confiées en faisant de nous ses agents humains. Relisons les avertissements et les réprimandes que Dieu adressait à son peuple durant les siècles passés. Nous ne manquons pas de lumière. Nous connaissons les actes que nous devrions éviter et ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi, si nous ne cherchons pas à savoir et à faire ce qui est bien, c'est parce que notre cœur charnel est plus enclin au mal qu'au bien. Il y aura toujours des êtres sans foi qui compteront sur celle des autres pour se conduire. Ne possédant pas une connaissance expérimentale de la vérité, ils n'ont pas éprouvé sa puissance sanctifiante. Chaque membre d'Église devrait s'efforcer de sonder son âme avec calme et diligence afin de s'assurer que sa vie est en harmonie avec le grand idéal de justice du Seigneur. Dieu a fait de grandes choses pour vous en Californie, particulièrement à Auckland. Mais il serait prêt à faire bien plus encore si, de votre côté, vous mettiez vos actes en accord avec votre foi. Dieu n'honore jamais l'incrédulité par de riches bénédictions. Récapitulez tout ce que Dieu a fait pour vous et sachez que ce n'est que le commencement de ce qu'il est disposé à faire. Sondez les Écritures. Il faut que nous attachions plus de prix aux Saintes Écritures, car elles renferment la volonté de Dieu à l'égard des hommes. Reconnaître que la parole de Dieu est la vérité ne suffit pas. Il faut la sonder afin de savoir ce qu'elle contient. Recevons-nous la Bible comme l'oracle de Dieu? Elle est une révélation divine aussi réelle que si elle nous parvenait d'une voix qui puisse être entendue. Nous ignorons combien elle est précieuse parce que nous n'obéissons pas à ses instructions. Les mauvais anges sont à l'ouvre tout autour de nous, mais parce que notre œil ne nous permet pas de discerner leur présence, nous ne considérons pas comme nous le devrions la réalité de leur existence telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu. Si celle-ci ne contenait rien de difficile à comprendre, l'homme s'enorgueillirait en l'étudiant et il deviendrait présomptueux. Il n'est pas bon de croire que l'on comprend toute la vérité, car cela n'est pas vrai. Que nul ne se flatte de saisir correctement le sens de n'importe quelle portion de l'Écriture et de croire qu'il doit amener les autres à comprendre comme lui. Que tout orgueil intellectuel soit banni. J'élève la voix en signe d'avertissement contre toute espèce d'orgueil spirituel, car ce dernier abonde dans l'Église aujourd'hui. Lorsqu'on s'aperçut que la vérité que nous chérissons aujourd'hui était bien biblique, elle parut étrange et nous rencontrâmes une violente opposition en la présentant pour la première fois. Mais combien ils étaient sincères et soumis, ces ouvriers qui aimaient la vérité. Nous étions vraiment un peuple particulier. Petit en nombre, dépourvu des richesses, de la sagesse et des honneurs du monde, nous avions cependant mis notre confiance en Dieu et nous étions forts. Notre activité était couronnée de succès, et nous étions la terreur de ceux qui faisaient le mal. Nous éprouvions à l'égard les uns des autres une affection solide, presque inébranlable. Alors la puissance de Dieu se manifestait au milieu de nous. Les malades étaient guéris, et une joie calme et douce était notre partage. Mais si la lumière a augmenté d'intensité, l'Église n'a pas progressé dans les mêmes proportions. Leur fin a graduellement perdu son éclat. La mort et le formalisme se sont introduits dans l'Église et ont entamé ses énergies. Les privilèges nombreux et les occasions qui leur étaient offertes n'ont pas élevé les enfants de Dieu vers la pureté et vers la sainteté. Une fidèle mise en valeur des talents qu'ils ont reçus de Dieu leur permettrait de les augmenter considérablement. Il sera beaucoup demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. Seuls ceux qui acceptent fidèlement la lumière que Dieu leur envoie, qui l'apprécient et qui s'engagent résolument dans la voie du renoncement et du sacrifice, seront des instruments par lesquels le monde sera éclairé. même parvenus à la frontière de la Canaan céleste, ceux qui n'avanceront pas reculeront. Il m'a été révélé que notre foi et nos actes ne correspondent en aucune manière à la lumière que nous avons reçue. Nous ne devons pas avoir une foi partagée, mais une foi parfaite qui agit par amour et qui purifie l'âme. Dieu vous demande, en Californie, de vous unir plus étroitement à lui. Indépendance individuelle. Une chose devrait être évitée, l'indépendance individuelle. Nous sommes des soldats dans l'armée du Christ, et une harmonie d'action devrait exister dans les différentes branches de l'œuvre. Personne n'a le droit de prendre des initiatives sous sa propre responsabilité, ni d'avancer dans nos journaux des idées sur des doctrines bibliques au sujet desquelles on sait que les opinions sont partagées et qui risquent de donner naissance à des controverses. C'est ainsi qu'ont agi les adventistes du premier jour. Chacun a suivi son propre jugement, cherchant à présenter des idées originales jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune unité dans leurs actions, si ce n'est peut-être dans leur opposition à l'égard des adventistes du septième jour. Ne suivons pas leur exemple. Dans ses agissements, chaque ouvrier doit tenir compte de ses semblables. Les disciples de Jésus n'agiront pas indépendamment les uns des autres. Notre force doit être en Dieu et bien dirigée afin d'être utilisée en vue d'une action noble et concentrée. Elle ne doit pas être dispersée inutilement. L'union fait la force. Cette union devrait exister entre nos maisons d'édition et nos autres institutions. Elle leur apporterait de la puissance. Il ne devrait y avoir ni lutte, ni désaccord entre les ouvriers. L'ouvre est une, dirigée par un seul chef. Des efforts intermittents et spasmodiques ont fait du mal. Aussi énergiques qu'ils soient, ils ont peu de valeur, car la réaction viendra sûrement. Nous devons cultiver une persévérance ferme, cherchant sans cesse à connaître et à faire la volonté de Dieu. Dieu regarde au caractère. Il nous importe de savoir ce que nous avons à faire pour être sauvés. Nous ne devrions pas, mes frères et mes sourds, nous laisser emporter par le courant populaire. Ce qui nous incombe, c'est de nous séparer du monde. C'est seulement ainsi, qu'à l'instar d'Enoch, nous pourrons marcher avec Dieu. Des influences divines agissaient sans cesse de concert avec ses efforts. De même, nous sommes appelés à posséder une foi solide et agissante. C'est à cette seule condition que nous pourrons être ouvriers avec le Seigneur. Nous devons nous soumettre aux conditions énoncées dans la parole de Dieu ou bien mourir dans nos péchés. Il nous faut connaître les transformations qui doivent survenir dans notre caractère par la grâce du Christ afin que nous puissions entrer dans les demeures célestes. Je vous le déclare, dans la crainte de Dieu, nous sommes en danger de vivre comme les Juifs, destitués de l'amour de Dieu et ignorants de sa puissance tandis que tout autour de nous brillent les rayons étincelants de la lumière de la vérité. Des millions de chrétiens peuvent prétendre obéir à la loi et à l'Évangile, et cependant vivre dans le péché. Certains qui savent présenter clairement les revendications de la vérité peuvent avoir des cours charnels. On peut aimer le péché et s'y livrer en secret. La vérité de Dieu n'est pas la vérité pour de tels individus, car leurs cours n'ont pas été sanctifiés par elle. L'amour du Sauveur ne peut pas exercer sa puissance contraignante sur leurs basses passions. L'histoire du passé nous rappelle que des hommes peuvent occuper des positions sacrées et cependant traiter la vérité avec duplicité. Ils ne peuvent élever vers Dieu des mains pures sans colère ni mauvaise pensée, parce que Dieu ne possédait pas le contrôle de leur esprit. La vérité n'a jamais mis son empreinte sur leur cours. C'est en croyant du cours qu'on parvient à la justice. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cours, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force, nous dit le Christ. Est-ce là ce que vous faites? Nombreux sont ceux qui ne le font pas et qui ne l'ont jamais fait. Leur conversation a été superficielle. Si donc, dit l'apôtre, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le cours est la citadelle de l'homme, car de lui jaillissent les sources de la vie ou de la mort. Aussi longtemps que son cours n'est pas purifié, l'homme n'est pas digne de participer à la communion des saints. Celui qui sonde les cours ne connaît-il pas ceux qui se complaisent dans le péché sans se soucier de leur âme? Et quelqu'un n'a-t-il pas été témoin des choses les plus secrètes dans la vie de chacun de nous? J'ai dû entendre des paroles que des hommes adressaient à des femmes et à des jeunes filles, des paroles de flatterie, propres à décevoir et à infatuer de soi. Satan fait usage de tous ses moyens pour détruire les âmes. En agissant ainsi, il en est peut-être parmi vous qui avez été ses agents. Si tel est le cas, vous devrez en répondre au jour du jugement. L'ange dit de cette classe de personnes, elles n'ont jamais donné leur cours à Dieu. Le Christ n'habite pas en elles. La vérité ne se trouve pas là. Sa place est occupée par le péché, la tromperie, la fausseté. La parole de Dieu n'est pas reçue comme la vérité ni prise comme ligne de conduite. L'activité que Satan déploie actuellement dans les cours, dans les églises et parmi les nations devrait faire frémir ceux qui étudient la prophétie. La fin est proche. Que nos églises se levant. Qu'individuellement nos membres expérimentent la puissance transformatrice de Dieu dans les cours, et on verra l'action profonde de l'Esprit. Le pardon des péchés n'est pas le seul résultat de la mort de Jésus. Le Sauveur a consenti à ce sacrifice infini, non seulement afin que le péché soit banni, mais afin que la nature humaine soit restaurée, embellie, relevée de ses ruines et rendue digne de la présence de Dieu. Nous devrions montrer notre foi par nos œuvres et nous préoccuper davantage d'obtenir une plus grande mesure de l'Esprit du Christ, car c'est là que réside la force de l'Église. Satan cherche à séparer les enfants de Dieu les uns des autres. Comme nous sommes pauvres en amour pour Dieu et en amour pour le prochain. La parole et l'esprit de vérité en nous nous séparons du monde. Les principes immuables de la vérité et de l'amour uniront les cours et la force de l'union sera en rapport avec la mesure de la grâce et de la vérité reçue. Il serait avantageux pour chacun de nous de plonger les regards dans le miroir de la loi royale de Dieu afin qu'elle nous apparaisse comme le reflet de son divin caractère. Veillons à ne pas négliger les signaux d'alarme et les avertissements qui nous sont donnés dans la parole. À moins que ces avertissements ne soient acceptés, les défauts de caractère terrasseront ceux en qui ils se trouvent, et ces malheureux tomberont dans l'erreur, dans l'apostasie et ouvertement dans le péché. L'esprit qui ne s'élève pas vers l'idéal le plus haut perdra bientôt la faculté de conserver ce qu'autrefois il avait acquis. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Spiritualité et efficacité. En ces derniers temps, Dieu s'est choisi un peuple auquel il a confié sa loi, et ce peuple devra sans cesse s'acquitter de tâches désagréables. Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Il faut une grande vigilance et une lutte continuelle pour maintenir le péché hors de nos églises. Il faut une discipline rigide, impartiale, car certains, revêtus d'une apparence de religion, chercheront à miner la foi des autres et travailleront secrètement à s'exalter eux-mêmes. Sur la montagne des Oliviers, Jésus déclara clairement que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il faisait allusion à une classe de gens qui sont tombés d'un haut état de spiritualité. Que de telles paroles pénètrent en nous, avec une puissance solennelle et scrutatrice. Où sont la ferveur et la consécration à Dieu qui correspondent à la grandeur de la vérité à laquelle nous prétendons croire? L'amour du monde, la faiblesse à l'égard de tels péchés mignons ont ôté du cours l'amour de la prière et la méditation des choses sacrées. On conserve une forme de religion en fréquentant les services religieux, mais où est l'amour de Jésus? La spiritualité meurt. Faut-il que cette indifférence et que cette torpeur déplorable se perpétuent? Le flambeau de la vérité va-t-il vaciller et s'éteindre parce qu'on ne l'aura pas suffisamment pourvu de l'huile de la grâce? Je voudrais que tous nos ouvriers puissent comprendre ce sujet tel qu'il m'a été présenté. L'estime de soi et l'orgueil tuent la vie spirituelle. On exalte le moi. On en parle. Oh, si le moi pouvait mourir. Chaque jour, je suis exposé à la mort, dit l'apôtre Paul. Lorsque cette propre suffisance, orgueilleuse et vantarde, s'infiltre dans l'âme, il n'y a plus de place pour Jésus. On le reléguait à l'arrière-plan, tandis que le moi s'enorgueillit et remplit le temple de l'âme. C'est la raison pour laquelle le Seigneur peut faire si peu de choses pour nous. S'il secondait nos efforts, l'instrument humain attribuerait toute la gloire à son intelligence, à sa sagesse, à son habileté, et se féliciterait comme le pharisien qui disait « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus ». Quand le moi sera caché en Christ, il ne remontera pas aussi fréquemment à la surface. N'accomplirons-nous pas les désirs de l'Esprit de Dieu? Ne rechercherons-nous pas davantage une piété pratique et moins d'arrangements formalistes? Les serviteurs du Christ devraient vivre comme s'ils étaient en présence du Sauveur et en présence des anges. Ils devraient s'efforcer de comprendre les exigences de notre temps et se préparer à y répondre. Satan nous attaque sans cesse par des moyens nouveaux et inattendus. Pourquoi les officiers de l'armée de Dieu seraient-ils incapables? Pourquoi laisseraient-ils une seule de leurs facultés en friche? Une grande tâche reste à accomplir. Si l'harmonie manque dans l'accomplissement de cette tâche, c'est parce qu'il y a trop d'amour-propre et trop d'égoïsme en nous. Ce n'est que lorsque nous suivons les ordres du Maître, sans chercher à laisser notre empreinte ou notre personnalité sur ce que nous faisons, que notre travail est efficace et harmonieux. Serrez les rangs, dit l'ange, serrez les rangs. Une religion vécue. Je vous supplie, vous qui êtes le ministre des choses sacrées, d'insister davantage sur la religion pratique. Si l'on voit si peu de conscience sensible, si peu de véritable contrition et de conviction du péché, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas profondément parmi nous. Notre Sauveur est l'échelle que vit Jacob, cette échelle dont la base reposait sur la terre et dont les derniers échelons atteignaient au plus haut des cieux. Ceci nous montre la méthode de salut qui nous a été donnée. Ceux qui, parmi nous, seront finalement sauvés, le seront en se cramponnant à Jésus comme on se tient au barreau de l'échelle. Pour celui qui croit, le Christ est fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Que nul ne s'imagine que c'est une chose facile que de vaincre l'ennemi et qu'il peut être élevé sans effort vers l'héritage incorruptible. Regarder en arrière, c'est s'exposer au vertige. Lâcher prise, c'est périr. Peu de gens comprennent qu'il est important de lutter pour vaincre. Ils se relâchent dans leurs efforts, et l'égoïsme s'empare d'eux. On pense que la vigilance spirituelle n'est pas indispensable. L'effort humain qu'on apporte dans la vie chrétienne manque de ferveur. Il y aura des chutes terribles parmi ceux qui croient être debout parce qu'ils possèdent la vérité. Mais ils ne l'ont pas telle qu'elle est en Jésus. Un moment de négligence peut plonger une âme dans une ruine irréparable. Un péché en appelle un autre qui prépare la voie à un autre encore, et ainsi de suite. Nous devons, en tant que fidèles messagers du Seigneur, le supplier sans cesse de nous garder par sa puissance. Si nous nous détournons tant soit peu du devoir, nous sommes en danger d'être entraînés dans une voie dont l'issue sera la perdition. Il y a de l'espoir pour chacun de nous, si nous nous attachons au Christ et si nous employons toutes nos énergies pour parvenir à la perfection de son caractère. La religion qui traite le péché à la légère, insistant sur l'amour de Dieu envers le pécheur sans tenir compte de ses actions, encourage celui-ci à croire que Dieu l'acceptera, même s'il persévérait dans ce qu'il sait être mal. C'est ce que font certaines personnes qui prétendent croire à la vérité présente. La vérité ne pénètre pas dans leur vie. C'est la raison pour laquelle elle est sans puissance pour les amener à la conversion. Dieu m'a montré que la vérité, telle qu'elle se trouve en Jésus, n'a jamais fait partie de la vie de certains croyants, en Californie. Ils ne possédant pas la religion de la Bible. Ils n'ont jamais été convertis, et à moins que leur cours ne soit sanctifié par ta vérité, Ils seront brûlés avec l'ivraie parce qu'ils ne portent pas les grappes du précieux fruit montrant qu'ils sont les sarments du sept divin. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. La vie de beaucoup de gens montre qu'ils n'ont aucune communion avec Dieu. Ils s'égarent dans les sentiers du monde. En réalité, ils ne sont pas unis au Christ. Ils affectionnent les amusements, abondent en idées égoïstes, plans, espoirs et ambitions. Sous prétexte de servir Dieu, ils servent l'ennemi. Ils sont assujettis à un maître dur, et cette servitude ils l'ont choisie, en se constituant volontairement les esclaves de Satan. L'idée fausse, acceptée par beaucoup, que l'on a tort de contraindre les enfants, fait des milliers et des milliers de victimes. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, Satan prendra certainement possession de vos enfants. Ne les encouragez pas à fréquenter les impies. Il faut au contraire les en éloigner. Vous-même, sortez de tels milieux et montrez-leur que vous vous tenez près du Seigneur. Ceux qui prétendent être les enfants du Très-Haut seront-ils fidèles, non seulement au moment des assemblées, mais aussi longtemps que les temps subsisteront? Ne voulez-vous pas vous rallier au Seigneur et le servir de tout votre cœur? Si, comme les enfants d'Israël, vous ne vous soumettez pas aux exigences de Dieu, vous subirez certainement ses jugements. Mais si vous délaissez le péché, si vous exercez une foi vivante, les plus riches bienfaits du ciel vous seront accordés.